Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Dans Sissi ou la fatalité ». Jean Descartes propose une biographie historique d'Elisabeth de Wittelsbach, impératrice d'Autriche et reine de Hongrie, devenue célèbre sous le nom de Sissi. L'ouvrage ne se limite pas à l'icône romantique popularisée par le cinéma, il cherche à restituer une souveraine complexe, à la fois admirée pour sa beauté. Hostile aux contraintes de la cour et profondément marquée par les drames de sa famille. Descartes inscrit son existence dans le cadre politique et dynastique de l'Empire des Habsbourg à la fin du XIXe siècle. Il examine notamment son rapport conflictuel à Vienne, son attachement à la Hongrie, ses voyages incessants et sa perception des tensions nationales qui fragilisent la monarchie. Publié chez Perrin dans cette édition de 2003, cette enquête s'appuie sur plusieurs années de recherche dans l'ancien espace habsbourgeois, incluant archives, souvenirs et rencontres avec des descendants. Le livre vise ainsi à expliquer à la fois la femme, la souveraine et la naissance durable d'un mythe européen. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, déconstruire l'image romantique de l'impératrice Sissi. Le premier rapport de Sissi, où la fatalité consiste à déplacer le regard du lecteur Elisabeth, n'est pas traité comme une héroïne de conte de fées, mais comme une femme insérée dans une institution monarchique particulièrement rigide. Sa beauté légendaire et son aura publique expliquent la force du mythe, mais Jean Descartes souligne aussi une personnalité fantasque, solitaire et souvent mélancolique. Cette tension est essentielle, l'admiration dont elle fait l'objet ne protège ni son autonomie ni son équilibre. La cour de Vienne impose à l'impératrice des codes, des représentations et des devoirs qui entrent en conflit avec son goût pour l'indépendance. Le livre invite donc à distinguer la célébrité d'Elisabeth de son pouvoir réel. Son refus du cérémonial et son éloignement fréquent ne relèvent pas simplement d'une excentricité séduisante. Ils expriment une difficulté durable à habiter le rôle que la dynastie lui assigne. Cette perspective permet de comprendre pourquoi sa figure demeure ambivalente. Elle est à la fois un emblème impérial et une présence fuyante, une souveraine très visible et une personne qui cherche à échapper à la scène officielle. L'ouvrage trouve sa force dans cette restitution d'une réalité plus rugueuse que les versions romancées de sa vie. Deuxièmement, la cour de Vienne comme contrainte politique et personnelle, la biographie met en évidence le poids de la maison des Habsbourg sur le destin d'Elisabeth. Dans une monarchie fondée sur le prestige dynastique, l'impératrice n'est pas seulement l'épouse de François-Joseph, elle doit contribuer à incarner la continuité de l'Empire. Les attentes sont donc à la fois familiales, sociales et politiques. Jean Descartes analyse ce cadre sans réduire Sissi à une victime passive, ses réactions face au protocole. Ses absences et son désir de mouvement manifestent une résistance personnelle. Mais une résistance dont les effets restent limités par les structures du pouvoir. Cette approche éclaire le terme de fatalité du titre. Il ne renvoie pas uniquement à l'assassinat de 1898 ou aux malheurs familiaux. Il désigne aussi l'emprise d'un système dynastique dans lequel les individus portent des rôles qui les dépassent. Le lecteur perçoit ainsi comment la sphère privée d'une impératrice devient immédiatement affaire d'État. Les gestes, les voyages ou les préférences d'Elisabeth sont observés et commentés dans des capitales aux sensibilités divergentes. L'ouvrage rend intelligible cette pression constante et rappelle que la liberté personnelle au sommet de la hiérarchie sociale peut être fortement restreinte. Il offre de ce fait une lecture concrète des coûts humains de la représentation monarchique. Troisièmement, la Hongrie, espace d'attachement et de reconnaissance pour Erzsébet, l'un des axes les plus distinctifs du livre, concerne la relation d'Elisabeth à la Hongrie. Alors qu'elle est souvent critiquée à Vienne, elle bénéficie à Budapest d'une image beaucoup plus favorable sous le prénom d'Erzsébet. Jean Descartes présente cet attachement comme un élément politique réel et non comme une simple préférence culturelle. Sissi défend la cause hongroise contre une conception exclusivement centralisatrice de l'autorité autrichienne, dans un empire où la question des nationalités est décisive. Sa popularité hongroise montre qu'une impératrice peut devenir le symbole d'une aspiration nationale, même sans exercer directement le gouvernement. Le contraste entre Vienne et Budapest révèle également les limites de l'unité habsbourgeoise, une même souveraine peut être perçue comme insuffisamment conforme dans un centre impérial et comme une alliée précieuse dans une autre partie de la monarchie. Cette dimension aide à dépasser l'histoire personnelle d'Elisabeth. Ses choix affectifs, ses sympathies et sa capacité à nouer une relation avec la société hongroise prennent place dans les recompositions politiques de son époque. La biographie ne fait pas d'elle la seule actrice de ce rapprochement, mais elle établit que son engagement a contribué à façonner sa mémoire. Sissi apparaît dès lors comme une figure transnationale dont le souvenir ne se confond pas avec la seule tradition viennoise. Quatrièmement, voyage. Non-conformisme et refus de l'enfermement impérial, les déplacements incessants de Sissi occupent une place importante dans le portrait dressé par Jean Descartes. Des palais danubiens aux rivages grecs ou normands, elle voyage dans une Europe de la fin du siècle traversée par des circulations plus rapides, mais aussi par des rivalités croissantes. Le livre ne présente pas ses séjours comme un décor pittoresque, il constitue une manière de se soustraire, au moins temporairement, à la surveillance et aux obligations de la cour. Le voyage devient une pratique d'évasion face à un rôle impérial vécu comme contraignant. Il traduit également une forme de non-conformisme, car Elisabeth refuse de se laisser définir exclusivement par la résidence. Le protocole est la disponibilité publique attendue d'une souveraine. Cette mobilité a cependant une ambiguïté que la biographie permet de saisir. Elle donne à Sissi des marges d'action et nourrit son image moderne, mais elle ne résout ni l'étion familiale ni les exigences de son rang. Fuir Vienne ne signifie pas sortir de la dynastie. En insistant sur cette contradiction, l'ouvrage évite de transformer ses voyages en simples gestes d'émancipation. Il révèle plutôt la recherche obstinée d'un espace personnel dans un monde où son identité est continuellement assignée par la fonction. Cette lecture explique la permanence de sa fascination. Sissi incarne une aspiration individuelle à l'autonomie au cœur même d'un ordre monarchique. En dernier lieu, une vision lucide des fractures balkaniques et de la fin de siècle, Jean Descartes replace Sissi dans les tensions qui annoncent la fragilisation de l'Europe centrale. L'ouvrage souligne sa lucidité à l'égard des déchirements balkaniques, souvent supérieurs, selon la présentation du livre, à celle de nombreux diplomates. Cette affirmation ne transforme pas l'impératrice en stratège ou en décideuse politique, son influence institutionnelle demeure différente de celle des responsables gouvernementaux. Elle permet plutôt de comprendre que son expérience de la monarchie multinationale lui donne une sensibilité particulière aux antagonismes de peuple et aux dangers du nationalisme. La question balkanique est ici liée au destin des Habsbourg, les conflits périphériques ne sont pas éloignés de l'Empire. Ils en révèlent les vulnérabilités internes et les incertitudes géopolitiques. Sissi est ainsi décrite comme une observatrice attentive d'une fin de siècle instable, plutôt que comme une figure exclusivement enfermée dans ses drames privés. Cette dimension politique enrichit la biographie sans la convertir en histoire générale de l'Empire austro-hongrois. Elle rappelle qu'une personnalité célèbre peut percevoir les fissures de son époque tout en étant elle-même prisonnière de ses contraintes. Le récit de son assassinat à Genève, en 1898, par l'anarchiste italien Luigi Lucchini, prend alors une portée symbolique. La mort violente de l'impératrice rejoint un continent marqué par les nationalismes, les violences politiques et le déclin des certitudes dynastiques. En conclusion, Sissi ou la fatalité s'adresse d'abord aux lecteurs attirés par les biographies de souverains européens. L'histoire des Habsbourg et les tensions nationales de l'Empire austro-hongrois. Il conviendra également à ceux qui souhaitent remplacer l'image lisse issue des adaptations populaires par un portrait plus documenté d'Élisabeth d'Autriche. L'intérêt intellectuel du livre réside dans son double mouvement, il restitue une personnalité singulière, indépendante, vulnérable. Mobile et rétive au protocole, tout en montrant que ses choix prennent sens dans un cadre dynastique et politique très contraignant. Le lecteur comprend mieux pourquoi Sissi fut contesté à Vienne, admiré en Hongrie et durablement mythifié dans l'Europe centrale. Ce qui distingue Jean Descartes de récits plus romancés est l'importance accordée au travail d'enquête. Ses recherches menées pendant 5 ans dans l'ancien empire des Habsbourg, avec consultation d'archives et de souvenirs inédits ainsi que des rencontres avec des descendants, soutiennent une narration accessible sans prétendre effacer les zones d'ambiguïté du personnage. Le livre n'est pas prioritairement une étude institutionnelle exhaustive de la monarchie austro-hongroise. Les lecteurs recherchant une analyse systématique de sa diplomatie ou de son administration devront la compléter par d'autres ouvrages. En revanche, il réussit à articuler expérience intime, représentation monarchique, attachement hongrois et inquiétude face aux fractures balkaniques. Cette combinaison fait de la biographie une porte d'entrée solide pour comprendre comment une impératrice est devenue simultanément une femme historique, un symbole politique et une légende culturelle. Si vous souhaitez soutenir Jean Descartes, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.